Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Leistari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients, oui.
Tout fou, j'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzel.
Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
I am cooking so good!
Si vous avez déjà été jeune, un peu fauché et en train de passer un samedi soir avec vos potes dans l'appart de l'un ou l'une d'entre eux, vous avez très certainement déjà versé un alcool premier prix dans un gobelet en plastique pour le mélanger avec un soft, genre nectar d'orange ou soda marque Pousse. Et qu'on se le dise, malgré la qualité toute relative du breuvage que vous avez ainsi assemblé, vous avez bel et bien préparé un cocktail lors de ces premières fêtes. Car oui, avant d'être le cliché du verre très coloré, sucré et surplombé d'un petit parasol, le cocktail est le nom que l'on donne à toute préparation dans les années 20, pendant la prohibition aux États-Unis, qui résultait du mélange d'une boisson à un alcool de contrebande de mauvaise qualité, pour en masquer le goût. Voilà le principe même du cocktail. Alors vos vodka oasis tropical ou manzana limonade, ces mélanges que bien sûr vous vous êtes promis de ne plus jamais refaire, étaient en tout cas bien dans le thème. Heureusement, un cocktail, ça peut être autre chose que ces mauvaises associations de liquides. Parce que oui, pas besoin d'avoir fait de longues études de chimie pour savoir qu'un truc pas bon avec un autre truc pas bon, bien sûr que ça n'allait pas le transformer en truc potable. Heureusement aussi, un cocktail, ça peut être autre chose que ces longs drinks trop sucrés vendus dans ces bars d'afterwork, trop décorés pour être honnête. Comme beaucoup de personnes, j'ai longtemps été très méfiante envers les cocktails. J'avais l'impression que commander ça dans un bar, c'était forcément payer trop cher une petite dose d'alcool diluée dans des litres de sirop de toutes les couleurs. Au moins avec une pinte, j'en avais pour mon argent. En fait, un cocktail bien fait, c'est comme en cuisine. Un mélange de bons ingrédients avec une réflexion sur leur combinaison et la meilleure façon de les doser ensemble. C'est la vision défendue par Chirine et Marie Cabaret-Besanval, qui sont à la fois mariées et associées puisqu'elles tiennent ensemble Couteau, un bar à cocktails dans le 10e arrondissement à Paris. En plus d'affûter leurs cocktails derrière le comptoir, elles en profitent pour surprendre la clientèle qui vient avec des a priori en cassant les stéréotypes de genre appliqués aux spiritueux.
Le type de verre, si c'est un verre à martini, donc le verre, on va dire, de la petite coupette, souvent, les hommes, s'ils voient un cocktail arriver comme ça, ça tique un peu. C'est souvent les hommes, souvent, et ils trouvent ça féminin. Donc, ce à quoi on leur répond que James Bond boit tous ses cocktails dans des coupettes, et bon, James Bond est loin d'être féminin.
Mais avant de m'entretenir avec elle, j'ai voulu faire un focus sur un alcool souvent utilisé dans les cocktails. Alors, ça aurait pu être la vodka, qui est la base la plus répandue dans les cocktails, ou encore le gin, son alter ego, ou même le whisky. Mais puisqu'il a fallu faire un choix, on a pensé au rhum, car à travers cette eau de vie, il y a toute une histoire française peu reluisante dont il faut parler. Le rhum, c'est cet alcool que l'on a commencé à fabriquer à partir de restes de canne à sucre dans les plantations sucrières sur lesquelles travaillaient les esclaves des Antilles. C'est donc une boisson qui porte en elle l'histoire de la traite négrière. Cette histoire, on la regarde aujourd'hui rarement frontalement. On préfère retenir du rhum son imaginaire lointain, ensoleillé, forcément jovial et, attention au mot cliché, exotique. Dans les Antilles, il a fallu pourtant un moment avant que cet alcool chargé de douleur soit considéré comme partie prenante d'un patrimoine dont les locaux pouvaient être fiers. Aujourd'hui, le rhum de Martinique bénéficie d'une AOC et celui de la Guadeloupe d'une IGP, une indication géographique protégée. J'ai discuté avec Miguel Jean-Noël, qui tient la Rhumerie du Pirate en Guadeloupe, de cette perception qui a évolué. Il m'a ensuite parlé de cocktails et de ses recettes préférées.
Les parents, avant, ils avaient l'idée de ce spiritueux, le rhum, comme quelque chose qui rappelle énormément ces moments de douleur, en fait. C'est l'esclavage. Le rhum, ben forcément, les gens qui boivent du rhum, ce sont des gens qui forcément vont être ivres, ne savent pas ce qu'ils font, vont attirer de la bagarre.
Boivent pour oublier.
Et c'est vrai qu'on avait toujours, dans pratiquement toutes les familles antillaises, on a toujours l'arrière-grand-père ou le grand-père qui, malheureusement, était toujours ivre, et parfois pouvait être violent. On a tous connu dans les familles des personnages comme ça. Donc, étant petit, les grands-parents et ensuite nos parents ont eu leur enfance dans ça, ont été baignés dans ça. Donc, effectivement, ils avaient cette culture de transmettre cette façon de penser de ce produit qui est le rhum.
D'accord. Donc, avec des histoires d'alcoolisme, avec en arrière-fond l'esclavage, pendant longtemps, le rhum n'a pas été vraiment...
Ça n'a pas fait bon ménage, puisque il faut savoir aussi que beaucoup de révolutions ont été menées aussi avec... avec du rhum, avec du rhum qui servait pour soit mettre le feu, qui servait à doper les esclaves. Il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Et je pense que tout ça aussi, parce que faut savoir que les esclaves avaient interdiction de boire le rhum. Et je pense qu'il faut savoir que tout ça a dû aussi modifier un petit peu l'aspect général de la façon de penser des gens, des uns et des autres.
Donc, beaucoup de tensions, en fait, autour de ce produit. Une histoire qui est très, très chargée. En fait, on peut le rappeler, donc, le rhum est vraiment né au XVIIe siècle sur les plantations de canne à sucre des Antilles, puisqu'on broyait les cannes à sucre et c'est en faisant ça qu'on obtenait du vesou, donc le déchet, le moût de la canne à sucre, qui est la base du rhum agricole.
Voilà. Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le rhum, cette industrie qui a été vraiment une industrie forte de ces années au XVIIe siècle, dans toute la Caraïbe, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue, Haïti principalement. Donc, effectivement, c'était le principe, c'était d'amener là cette main-d'œuvre qui sortait d'Afrique pour pouvoir cultiver et faire tout seulement le sucre et le rhum.
Et j'ai aussi lu que, en plus, c'est une idée qui est venue d'esclaves qui ont réussi en fait à montrer comment on pouvait distiller plus rapidement. Donc en fait, j'ai l'impression que donc le rhum c'est un produit de l'esclavage, mais dont les esclaves ont été aussi, on leur a empêché aussi finalement de profiter de ce que ça a permis, de l'industrie que ça a généré après.
Ben c'est exactement un petit peu ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent, c'est vrai. Bon, il faut savoir que les premiers textes, vraiment, les premiers documents qui parlent de Rhum ont fait leur apparition en 1667. Et c'est le père Duterte qui les avait écrits. Aujourd'hui, en Guadeloupe, nous avons quand même de très très bons produits. Et nous avons la reconnaissance, puisque aujourd'hui, pratiquement tous les restaurants proposent une panoplie de Rhum. Des dégustations se mettent en place, même les jeunes participent à comprendre à les méthodes pour pouvoir déguster le rhum, pour pouvoir comprendre non seulement son histoire, mais aussi revoir un petit peu pourquoi il y a eu toute cette souffrance, toute cette économie qui a été conçue autour de ce produit, de l'esclavage. Cette prise de conscience nous a permis de pouvoir... mettre en valeur ce produit qui sera toujours notre patrimoine, qui sera toujours notre histoire. Donc, au lieu de tout le temps parler de l'aspect de l'esclavage, qui forcément a quand même laissé des traces et quelques petits soucis encore dans notre société aux Antilles, il faut quand même voir l'avenir, voir un peu plus haut. Et adapter l'histoire qu'on a eue, ne pas forcément en avoir honte, à être reconnaissant et montrer aussi que ce produit, sans l'aide des esclaves, de la société, du peuple antillais, il n'aurait pas pu avoir cette splendeur qu'il a aujourd'hui.
Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le rhum agricole et le rhum industriel ?
Le rhum agricole, c'est du rhum. Du pur jus de canne qui donne du rhum blanc qui a été vieilli en fût de chêne, en fût de bon, ou ceux qui décident de mettre dedans. Et le rhum industriel, c'est du rhum qui est fabriqué à base de mélasse.
Oui.
Donc la fermentation est à base de mélasse. Donc sur le rhum agricole, on va plus avoir des notes épicées, boisées, un peu de réglisse. Et sur le rhum à base de mélasse, on va être plus sur des notes pâtisserie, du miel, du caramel, quelque chose de plus sucré. Voilà. Donc c'est vrai que cette différence, on la trouve énormément sur les rhums de mélasse, on la trouve énormément sur les rhums espagnols, les rhums anglophones, certaines marques. Et en Guadeloupe, il y a aussi des fabrications à base de mélasse, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir du rhum agricole. Et pour moi, c'est le rhum qui est le plus apprécié, je pense.
Ouais.
Et qui doivent vraiment montrer toute sa noblesse par rapport à cette méthode de fabrication qui est spécifique.
Est-ce que le rhum, c'est un bon alcool à cocktail, selon toi ?
Alors, le rhum, pour moi, le rhum, ça, c'est un bon alcool à cocktail, mais en fait, il faut savoir qu'il y a un rhum particulièrement qui est adapté au cocktail. Ça, c'est le rhum ambré.
Oui.
Le rhum ambré, en fait, c'est du rhum qui a été vieilli tout juste un an. Donc, en fait, il ne peut pas avoir l'appellation rhum vieux, puisque l'appellation rhum vieux, c'est un des rhums qui ont été vieillis 3 ans, minimum. Donc, le rhum ambré, c'est un rhum, justement, qui est entre le rhum blanc et le rhum vieux, et qui a toutes ces notes qu'il peut apprécier en cocktail. Donc, moi, j'utilise beaucoup le rhum ambré pour faire les cocktails, et beaucoup de grands barman utilisent le rhum ambré pour leur cocktail.
D'accord, parce que le rhum ambré a des notes qui vont bien aller avec la plupart du coup, voilà. des recettes de cocktails.
Voilà. C'est-à-dire qu'on a le rhum blanc, on a le rhum ambré et le rhum vieux. Généralement, les rhums vieux, ce sont des produits qui sont déjà très nobles, qu'on ne va pas mélanger avec autre chose, parce que c'est un rhum qui a été vieilli plus de 10 ans, on ne va pas le mélanger avec un jus d'orange, par exemple. Ça va être dommage. Donc c'est vrai qu'ils ont élaboré le rhum ambré, justement, pour avoir un peu ce côté vieillissement qui est apporté par les fûts de chêne ou le vieillissement en fût, et aussi ce côté fruité qu'amène certains rhums blancs. Donc c'est entre les deux le produit qui pour moi est le mieux pour pouvoir faire des cocktails.
Et quelles sont tes recettes préférées de cocktails qui comportent du rhum ?
Alors bon, il y a le traditionnel pina colada, ça c'est sûr que c'est un des cocktails que je préfère, enfin que beaucoup de personnes préfèrent.
Vous en avec noix de coco et ananas.
Voilà, coco, ananas, voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très, très demandé dans les établissements avec tout ce qui est mojito, tout ça. Mais c'est vrai que là encore, la particularité du mojito, c'est qu'on utilise un rhum blanc qui généralement ne va pas plus de 40%. Voilà, on aurait pu bien utiliser généralement, traditionnellement, le rhum Bacardi que tout le monde connaît, mais aux Antilles, on utilise ils ont développé des rhums spécialement pour les cocktails. Et au niveau du rhum blanc, il y a le rhum à 40% qui va très bien pour tout ce qui est mojito et les autres. En fait.
Donc avec des feuilles de menthe très frais.
Voilà, avec des feuilles de menthe, avec le citron, avec la petite touche de sucre de canne. Donc ça apporte toutes ces notes qui sont que les gens adorent ces cocktails.
Alors quand on parle de cocktails et de rhum, on pense aussi aux planteurs, aux tiponches aussi.
Voilà. Alors vous avez bien entendu effectivement le planteur. C'est un mélange de jus de fruits avec des épices et du rhum. On a le tiponche traditionnel. Bon, généralement c'est sucre citron. Mais c'est vrai qu'aux Antilles, nous, on le réalise avec soit du miel, soit du sirop de batterie, qui est aussi un sirop qui est fabriqué avec dans les sucreries, avec la mélasse. Donc ça aussi, les locaux utilisent beaucoup ce classique. Et on a aussi le sirop à base de fruits. Donc ça peut être un sirop d'ananas, un sirop de fruits de la passion, un sirop de mangue, un sirop de carambole. Donc on utilise énormément ces types de produits pour remplacer le sucre, traditionnellement sucre et citron, qui est classique pour au niveau des restaurants.
Est-ce que pour terminer, Miguel, tu peux partager avec nous une recette d'un cocktail que tu aimes ? Avec du rhum.
Il y a un cocktail que nous faisons au restaurant qui s'appelle le Flibustier et qui est un cocktail qui est à base de rhum et qui est vraiment très très bon. Alors donc, pour réaliser ce cocktail, il nous faut du rhum ambré, il y a juste un an de vieillissement. Il nous faut de la pulpe de goyave, il nous faut de l'amaretto et il nous faut une petite pointe de cannelle.
T'as bon.
Voilà, donc du jus de citron aussi, avec un petit jus de citron. Donc pour le réaliser, alors on mélange la pulpe de goyave avec l'amaretto, Bon, la Marito va amener des notes amandes et qui se marient très bien avec la pulpe de goyave. Ensuite, on rajoute le rhum ambré, le jus de citron, des glaçons et on déguste. Et c'est vraiment très très, très 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 bon cocktail.
Si vous n'avez pas de pulpe de goyave mais juste du jus de goyave, Miguel vous suggère de mélanger le jus avec un peu de sirop de canne à sucre pour sucrer et épaissir la base. Après cet enregistrement, on a continué à parler avec Miguel de la place du rhum dans le monde. Au XVIIIe siècle, la France contrôlait sévèrement l'arrivée du rhum puisque les autorités avaient peur que celui-ci fasse concurrence aux eaux-de-vie de fruits produites dans nos régions. À cette époque, seule l'importation du tafia, cet alcool de canne de mauvaise qualité, était autorisée pour être utilisée comme monnaie d'échange pendant les opérations de traite. Et aujourd'hui, autre contexte encore, le groupe italien Campari a acheté 3 entreprises de rhum en Martinique. Le rhum a donc beau être produit dans les Antilles, il y a toujours d'autres acteurs géopolitiques pour s'en mêler. Après ce focus sur le rhum, place au cocktail mystérieux des meufs de couteau. Dans une interview publiée dans Chic Magazine, Chérine Cabaret-Besenval raconte que beaucoup de femmes arrivent dans leur bar en disant qu'elles n'aiment pas le whisky. Pour moi qui ai fait ma jeunesse à Lille, dans un groupe de potes où l'alcool officiel était le whisky à mélanger avec du coca, j'ai compris seulement en arrivant à Paris plus tard que cet alcool était très vivement associé au masculin. Car quand dans How I Met Your Mother, Barney Stinson boit du whisky, dans Sex and the City, Carrie Bradshaw et ses copines sirotent des cosmopolitanes. Dans la culture populaire, les séries et les films ont participé à la construction de stéréotypes. Pour chahuter ces goûts genrés, Chérine et Marie s'amusent donc à proposer des cocktails dans lesquels le whisky n'est pas utilisé comme d'habitude. Pareil pour les clichés sur les drinks dits féminins, un mot qui n'a finalement aucun fondement gustatif et donc aucun sens. Pour que la clientèle commande sans a priori, la carte de couteau ne dévoile pas les ingrédients des cocktails, mais indique simplement des indices sur leur goût. Acidulé, gourmand, floral. Pour commencer, j'ai demandé à Chérine et Marie ce qu'est un bon cocktail.
Un bon cocktail, ça va déjà être un cocktail simple, avec des bons ingrédients. Et surtout, un cocktail, c'est comme en cuisine, c'est une question d'équilibre. L'équilibre entre le sucre, l'acide, l'alcool, voilà. On prend souvent des cocktails avec une base de 3 ingrédients, voire 4 si on veut rajouter un petit bitter ou une petite brume, un petit twist. Mais souvent, nous, on prend la base classique des cocktails qui est 3 ingrédients, c'est déjà suffisant, quoi.
Est-ce que vous pouvez me parler de certains cocktails que vous avez pu faire dernièrement et qui vous plaisent particulièrement ?
Par exemple, pour un cocktail classique comme le Negroni. En gros, c'est une base de cocktail à 3 ingrédients, mais en fait, ces 3 ingrédients, plus que d'être un des ingrédients, c'est 3 goûts, en fait.
Ça va être une part d'amer, une part d'apéritif et une part de spiritueux. Et c'est vrai que bah, juste avec ça, on peut parfois juste changer un des 3 ingrédients et puis ça fonctionne, et puis ou le faire infuser. Donc c'est vrai que ouais, le Negroni, enfin, on avait fait avec un infusé avec un peu de lavande et puis ça marche toujours bien, ça rappelle un peu le printemps, l'été, donc ça appelle le soleil.
Est-ce que ça fait partie des cocktails qu'on vous commande le plus ? Est-ce que vous avez un peu des cocktails signature chez Couteau ?
Bah, en fait, notre carte, on n'a pas de cocktail signature parce que notre carte change régulièrement.
Et puis même quand les gens nous demandent un cocktail plus classique comme un spritz ou un mojito, on peut pas toujours les faire parce qu'on n'a pas toujours les ingrédients. Par contre, on leur propose de leur faire quelque chose dans l'esprit d'un spritz ou dans l'esprit d'un mojito. Et c'est encore mieux parce que ça personnalise totalement le cocktail pour eux. Ça sera leur cocktail au final.
Ah oui. Alors par exemple, qu'est-ce que vous pourriez mettre dans un cocktail dans l'esprit d'un spritz mais qui ne serait pas un spritz ?
Bah déjà, on peut changer la base d'amer. Dans le spritz classique, c'est l'apérol spritz. Donc ça va être de l'apérol, la base. De l'amertume, on peut la trouver ailleurs. On peut la trouver dans des gentianes, on peut la trouver dans d'autres amers italiens. Donc on peut déjà changer cette base, ça va déjà changer le goût. Après, nous, on mettrait pas forcément du prosecco. On peut choisir un vin blanc un petit peu plus sec ou un cidre. En fait, il y a plein de façons, même l'agrume, la petite touche d'agrume, on peut la changer plutôt que la petite rondelle d'orange en fonction de ce qu'on a en ce moment, en fonction de la saison. On peut avoir peut-être plus du kumquat ou...
Ça va être la saison du melon, bah juste ouais. Mettre par exemple un peu de suze qui se trouve très facilement et c'est français. On top avec un petit peu de cidre ou même de poiré, un truc. Il faudrait voir quelque chose d'un peu sec quand même. Et puis mettre une petite tranche de melon et déjà je pense qu'on a un bon cocktail qui marche bien de saison.
On fait une grosse corrélation entre les cocktails et la cuisine, comme j'ai dit. Donc, je pense que c'est les principes de notre temps aussi, d'utiliser des produits de saison, des produits qui sont sourcés, des produits en majorité quand même agriculture biologique ou moins raisonnée. On agit vraiment comme ça en fait.
Comme a dit Chérine, c'est que le cocktail, ça rappelle beaucoup la cuisine, parce que justement, il y a ce principe d'équilibre. Bah, une recette de cocktail, on peut la transposer sur une recette de cuisine. Équilibrer, trouver le bon assaisonnement pour le cocktail, pour que tous les ingrédients soient vraiment ressortent vraiment et soient intéressants et utiles dans le cocktail. Et puis après, il y a cette recherche de produits bien sourcés, de bons produits. Alors en cuisine, on va vraiment se concentrer donc sur tous les produits solides. Et puis en cocktail, on va retrouver ça, mais avec des produits liquides, des apéritifs. Et c'est vrai qu'on voit, il y a eu un peu un renouveau des apéritifs français, des choses que nos parents, grands-parents buvaient. Je pense à la suze notamment, mais aussi au vin de noix, au limet. Donc le cocktail, ça va être trouver le produit qui va avoir cette bonne aromatique et essayer de le mettre en valeur comme on peut retrouver sur la cuisine en ce moment. En tout cas, la cuisine qui nous plaît, c'est vrai que c'est une cuisine de produits, là c'est un peu un cocktail de produits.
Ce que j'aime bien avec le principe du cocktail, c'est que j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs familles. On peut chercher à masquer un peu le goût d'un alcool dans un cocktail. On peut aussi, à l'inverse, chercher à ce que les notes soient hyper identifiées. Donc j'ai l'impression qu'il y a soit la volonté d'agglomérer et de faire un goût homogène, soit au contraire de faire tout ressentir en fait dans la liqueur obtenue à la fin.
Là, du coup, on va toucher au nombre d'ingrédients dans le cocktail. Nous, comme on choisit d'utiliser peu d'ingrédients, le but, c'est qu'ils aient vraiment tous leur sens dans le cocktail. Le but, c'est qu'ils se complètent, c'est qu'ils se sentent tous, qu'ils apportent tous quelque chose. Sinon, ça sert pas forcément, nous on trouve en tout cas, ça sert pas forcément à grand chose de les utiliser.
Quels sont vos cocktails préférés de façon générale?
Pour moi, ça serait le Dirty Martini, donc qui est un mélange de gin, vermouth, donc apéritif à base de vin, et on rajoute de la saumure d'olive. Donc c'est le petit jus qu'il y a dans les olives. Donc ça vient apporter un côté un peu salin, enfin même plus ou moins salin en fonction de la quantité de jus d'olive qu'on va mettre. Mais en même temps, ça reste un peu sec en bouche. Ou alors sinon, complètement à l'opposé, c'est une pina colada.
Et moi, j'aime beaucoup l'acidité et l'amertume. Donc côté acidité, mon cocktail, ça serait plutôt le daiquiri. Donc ça va être une base assez simple de rhum, sucre et jus de citron. Ça a bien frappé, bien shaké, c'est juste, ça se boit tout seul. Et sinon, j'aime beaucoup les amers, donc parfois juste un petit amer, une petite gentiane avec du tonique ou plutôt du Perrier pour désucrer un peu. Moi, ça me va très bien.
Est-ce que vous avez des conseils à donner à celles et ceux qui auraient envie de faire des cocktails parfois chez soi? Est-ce qu'il y a une base qui peut être intéressante à avoir et qu'on peut dégainer facilement? Est-ce que vous pouvez recommander quelques types d'alcool pratiques à avoir?
Une bonne base, Marie?
Ça va être, je pense que la base déjà du daiquiri, donc le principe de trois, donc un sucre, une acidité et un spiritueux. Donc pour l'acidité, jus de citron, ça reste très bien parce que donc il y a une bonne acidité et puis c'est simple à trouver. Pour le spiritueux, on peut prendre n'importe lequel. Après, c'est en fonction de ce qu'on aime. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec un cocktail assez simple comme ça, trois ingrédients, n'importe quel spiritueux pourra bien s'y prêter.
Ouais, que ce soit
gin, rhum, vodka,
whisky,
enfin tout marchera.
C'est un sour, quoi.
Ouais. Et après, le sucre.
Ouais.
Et là, après, on peut s'amuser à la maison, c'est faire son sirop maison. Et c'est très facile parce qu'un sirop, on va généraliser, mais un sirop, ça va être une part pour une part. Donc, c'est-à-dire une part de sucre en poudre pour une part d'eau. Et on va mélanger tout ça et faire chauffer un peu. Et ça va nous apporter un sirop. Et après, du coup, on peut s'amuser soit à changer la part de sucre poudre. Au lieu de mettre du sucre blanc, on va mettre du sucre cassonade. Ou alors, la part d'eau, au lieu de mettre de l'eau nature, par exemple, on va se faire un thé à la menthe. Et on va remplacer notre eau par notre thé à la menthe et on aura un sirop de thé à la menthe. Ça va apporter tout de suite son petit twist. Ou alors, on remplace l'eau par une part de jus de pomme, par exemple, et on a un sirop de pomme.
Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est essentiel d'avoir un shaker pour faire tout ça, ou on peut se débrouiller sans ?
Je pense qu'on peut se débrouiller sans. Alors c'est vrai qu'un shaker, il va y avoir ça va être plus pratique. Mais nous, ça nous est déjà arrivé de shaker avec un pot de confiture ou quelque chose, qui va bien se fermer, ou un pot de compote qui se ferme à vis. Ça fonctionne aussi. Et par contre, ce qui va être important pour le cocktail à la maison, et c'est pour ça que parfois on a plus tendance à ouvrir une bouteille de vin ou une bouteille de bière, c'est que l'importance pour un cocktail, ça va être les glaçons. Et ça demande quand même d'avoir un stock de glaçons.
Après, rien n'empêche de le faire de préparer le cocktail et après de le mettre un petit peu, soit dans un punch, le boire à température ambiante, soit mettre des glaçons dedans, soit le mettre carrément un tout petit peu au congélateur avant que les invités arrivent. Comme ça, on a quelque chose de bien frais quand il est sorti, quoi.
Est-ce que vous pensez que la vision que qu'ont les gens des cocktails a un petit peu évolué? Je dis ça parce que je pense que dans l'esprit de beaucoup, les cocktails, c'est peut-être les trucs trop sucrés ou alors trop forts et pas forcément subtils. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un très vif regain d'intérêt pour cet univers-là.
On a un petit peu plusieurs types de clients. On a des clients qui ont eu une mauvaise expérience, qui n'ont peut-être pas bu un cocktail au bon endroit, qui était bien fait, donc ils vont avoir effectivement cette idée du cocktail très sucré, avec peut-être des alcools qui n'étaient pas trop de qualité, un mauvais souvenir. Après, c'est aussi un coût différent. Un cocktail, c'est pas forcément le même prix qu'une pinte de blonde. Il y a aussi ce petit facteur qui peut rentrer en compte. Et après, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que les cocktails sont réservés à une certaine partie de la population, je sais pas, ou alors qu'il faut s'y connaître, qu'on peur de certaines cartes justement dans les bars à cocktails, où ils vont pas comprendre la moitié des ingrédients, ils vont pas oser demander sur chaque recette qu'est-ce que c'est ça, par peur de peut-être de se sentir un petit peu ridicule. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette carte à couteau, une carte sans ingrédients, juste avec les goûts. On donne les goûts au client parce qu'au final, c'est ce qu'on va expliquer au client quand il veut prendre un cocktail. C'est on va se poser la question, qu'est-ce que j'aime comme goût ? Voilà.
Est-ce que vous avez le sentiment que l'univers des cocktails est un monde aussi plein de stéréotypes ? Moi, spontanément, quand je vois autour de moi certaines personnes refuser d'en boire ou autre, ce que je vais entendre, c'est « Ah oui, c'est... ça va pas être assez alcoolisé, ou alors ça va être oh non, c'est vraiment un truc de femme parisienne. » Et à l'inverse, j'ai l'impression aussi que le monde du bar est un univers qu'on présente souvent comme assez masculin. Alors vous, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que femme d'évoluer dans ce milieu-là? Est-ce que vous êtes confrontée parfois à des clichés?
Alors, le monde du cocktail et du bar est rempli de clichés et de stéréotypes. Que ça soit le stéréotype de personnes, du type de personnes qui travaillent, de type de travail qu'ils fournissent aussi. Après, nous, on dit souvent qu'on a eu de la chance, on n'a pas été confronté à un sexisme, en tout cas dans notre profession. Notre génération, elle est très, je sais pas si dire tolérante, c'est intéressant, mais en tout cas, c'est jamais quelque chose qui rentre en compte. Nous, on n'a jamais été confrontés à ça en direct, mais on sait que ça existe.
Après, ouais, il y a des clichés déjà sur les cocktails. Parfois, on va entendre des gens qui vont dire ah non, c'est trop sucré. Par exemple, sur des cocktails, la piña colada, les gens vont dire ah c'est trop sucré, ou alors le Bloody Mary, ah non, j'aime pas, c'est pas bon. Sauf que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les gens où vient cette idée, en fait, c'est que les gens ont bu une piña colada, dans un club où c'était mal fait, voilà. Donc en fait, c'est vrai que ça reste par exemple un cocktail un petit peu gourmand, mais c'est pas trop sucré. Ou alors sur l'inverse, des cocktails qui vont être un peu puissants, les gens vont associer ça. Ah non, c'est trop fort et tout ça. Sauf que en fait, il y a plein de nuances de cocktails. Et après, ouais, au niveau des alcools, il y a des clichés. Notamment sur le whisky, whisky, cognac, où c'est pas des alcools de femmes, donc c'est vrai que les gens ou alors le type de verre aussi, type de verre, si c'est un verre à martini, donc le verre, on va dire, de la petite coupette, souvent les hommes, s'ils voient un cocktail arriver comme ça, ça tique un peu, c'est souvent les hommes, souvent, et ils trouvent ça féminin. Donc, ce à quoi on leur répond que James Bond boit tous ses cocktails dans des coupettes, et bon, James Bond est loin d'être féminin.
C'est clair, c'est un avatar justement d'une virilité hyper symbolique. Exactement. Et donc en fait, beaucoup d'hommes vont préférer avoir le verre à whisky, c'est ça, avec vraiment la base bien épaisse à poser
sur
la table.
C'est peut-être un peu ça, ouais. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. Et après, parfois, c'est même les femmes qui s'interdisent de prendre un cocktail parce que elles savent qu'il va y avoir du whisky dedans et qu'elles se disent que c'est pas pour que c'est pas pour elles en fait. Donc souvent, on prend un malin plaisir à ce que nos best-sellers ou les cocktails les plus faciles à boire soient des cocktails justement avec du cognac, de l'armagnac, du whisky, des choses que les gens n'auraient pas imaginé à boire avec quelque chose de frais, quoi. Donc parfois, c'est même des barrières que les femmes vont se mettre directement sur le type de spiritueux qui leur serait dédié, on va dire. Mais après, tout ça, c'est des défauts de langage aussi. C'est comme nous, on reprend souvent les gens sur des dégustations, on va dire que ce gin a une robe très fine et très féminin. Mais c'est quoi des notes féminines? C'est souvent... ouais, ça veut rien dire pour nous, en fait. Donc, on essaye de reprendre un peu les gens, mais c'est vraiment des défauts de langage, là, pour le coup.
Mais malheureusement, c'est un peu ce qu'on peut entendre parfois aussi dans Top Chef. Genre, ce dressage est très féminin. Il y a un peu cette idée d'avoir recours au féminin et au masculin comme des grands poncifs pour remplacer d'autres adjectifs qui, en vérité, seraient plus intéressants à employer parce que plus précis. Et en fait, c'est vraiment dommage d'associer, du coup, forcément la délicatesse au féminin et forcément la robustesse au masculin ou à une proposition dite un peu virile.
C'est vrai que, par exemple, des cocktails à base de fruits rouges, ça va facilement, les gens vont pouvoir, mais que ce soit, alors là, pour le coup, client ou barman, on va facilement avoir tendance à dire, ça, c'est un cocktail un peu féminin, sauf que, c'est ça. Enfin, comme on a dit, ça veut rien dire. Alors, même si on comprend ce que le client veut dire par là, parce qu'effectivement, comme a dit Chérine, c'est que c'est un défaut de langage plus que vraiment une mauvaise intention derrière, mais voilà, donc on essaye de les reprendre gentiment en leur expliquant que on peut dire ça autrement.
Donc, il y a aussi un travail de sensibilisation ou en tout cas d'éducation quand on présente les cocktails et qu'on essaye de surprendre les gens en y mettant ici du whisky ou en leur parlant différemment peut-être des alcools. Ça permet de bousculer leurs idées reçues.
Totalement. Moi, je me souviens un jour d'un client qui est venu voir, il savait pas trop quoi prendre. Il m'a dit « Ah, mais faites-moi votre cocktail préféré, quelque chose de... » Je pense qu'il s'attendait à quelque chose de très simple à boire. Il dit vraiment, est-ce que je préfère, moi? Il dit, oui, de toute façon, je le boirais, enfin. Du coup, je lui ai fait un cocktail avec du whisky, du Campari, un petit peu de vin de noix, un petit bitter à la cardamome. Et je lui ai servi, je savais pas forcément si ça allait lui plaire, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime boire. Et, je sais qu'il a eu un peu de mal à le boire. Mais je savais que derrière sa demande, il y avait il y avait une attente, en fait, une attente de quelque chose de peut-être, peut-être féminin, du coup.
Je dois vous avouer un truc. Les cocktails, c'est comme le rosé et les fromages de chèvre pour moi. J'ai pas toujours été sympa avec eux. Longtemps, je les ai dénigrés en pensant qu'ils étaient tous moins bien, moins puissants, moins savoureux que leurs congénères. Pourquoi boire un cocktail quand on peut boire une bonne bière? Pourquoi ouvrir une bouteille de rosé quand on peut prendre l'apéro avec un bon rouge ou un bon blanc? Pourquoi acheter des fromages de chèvre quand on peut plutôt repartir avec un demi-chaourse et une tranche de chartreuse bichonnée? Mais vous savez quoi? J'avais tort. Il y a de super bons rosés, il y a de super bons crottins de chèvre hyper intenses et des cocktails qui amènent des goûts hyper complexes, loin de l'image du bonbon liquide que je m'en suis longtemps fait. Merci à Miguel Jean-Noël et à Chérine et Marie Cabaret-Besanval de nous avoir donné de leur temps pour parler de cocktails et de rhum. J'en profite pour vous faire une annonce. Le 100e épisode de Bouffon sort très bientôt. L'enregistrement de cet épisode très spécial se fera en public sur Zoom le 23 juin à 18h30. Réservez vite votre place. Le lien de réservation est dans la description de cet épisode ou sur les réseaux sociaux de Bouffon. Le thème de la discussion, les pique-niques. Parce que c'est le printemps, mais aussi déjà bientôt l'été, et parce qu'après le confinement, on a envie de casser la croûte dehors, quoi de mieux qu'un pique-nique à l'air libre pour se retrouver? Avec deux invités, nous discuterons de la place du pique-nique dans l'histoire et dans le monde, ce que ces moments disent de nous et de l'appropriation de l'espace extérieur qu'on en fait. On échangera également des recettes et des conseils pratiques pour exceller dans l'art du pique-nique. Participez à notre concours en postant sur Instagram votre meilleure photo de pique-nique, en taguant Bouffon, hashtag Bouffon d'or. Le ou la gagnante pourra faire partie de mes invités et intervenants lors de cet épisode anniversaire. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée par Marine Rowe, programmée par Clara Maté, mixée par Thomas Decourt et coordonnée par Laura Cuissard. À mercredi prochain!